Je voudrais lire une parole avant la prière, et c'est-à-dire le psaume 77, 77. Psaume 77, à partir du verset 4. Quand je pense à Dieu, je dois gémir. Quand je médite, mon esprit se décourage. Tu tiens mes paupières ouvertes. Je suis plein d'inquiétude. Je ne peux pas parler. Je médite les jours d'autrefois, les années depuis longtemps disparues. Je pense la nuit à mes instruments. Je médite dans mon cœur et mon esprit se creuse la tête et demande, le Tout-Puissant rejettera-t-il pour toujours et ne fera-t-il plus jamais grâce? Sa bonté s'épuise-t-elle à jamais? Ses promesses sont-elles anéanties pour toujours? Dieu a-t-il oublié de faire grâce? Ou dans la colère, a-t-il fermé sa miséricorde? Alors, je me suis dit, cela m'attriste de voir que l'action du Très-Haut a changé. Je me souviendrai des œuvres de l'Éternel. Je me rappellerai des merveilles dès les temps anciens. Je méditerai sur toutes tes actions. Je considérerai tes hauts faits. Ô Dieu sublime est ta voix. Où est une divinité aussi grande que toi, ô Dieu? Tu es le Dieu qui fait des miracles. Tu as prouvé ta puissance sur les peuples. Tu as racheté ton peuple par la force de ton bras, les fils de Jacob et de Joseph. Quand les eaux t'ont vu, ô Dieu, quand les eaux t'ont vu, elles ont tremblé. Même les profondeurs de la mer, jusqu'ici cette sainte et précieuse parole de Dieu. Dans les psaumes, chaque situation dans laquelle un homme peut venir est décrite. Chaque psaume et aussi dans chaque verset, déjà dans chaque verset, une nouvelle pensée, toute une autre situation peut prendre parole ou alors être décrite. Mais d'une manière ou d'une autre, toute la vie d'un homme, avec toutes ses hauteurs et ses moments bas, toutes les choses par lesquelles nous avons à passer, sont décrites dans les psaumes. Et si un homme entre dans une difficulté, dans une détresse, et s'il se trouve dans une situation sans issue, alors sûrement qu'il ne lira pas dans Genèse, il ouvrira les psaumes et demandera à Dieu de le conseiller. Il consultera Dieu et il trouvera aussi ce conseil dans les psaumes. Les hommes de Dieu, que ce soit David ou les autres, devaient passer par toutes sortes de chemins, des chemins que peut-être toi et moi, nous devons aussi passer sans le vouloir. Mais Dieu, avec cela, a un objectif bien précis, sans que nous puissions le comprendre tout de suite. Dans les psaumes, les grandes actions de Dieu sont décrites, et aussi le désespoir intérieur d'un homme est aussi décrit. des hommes qui étaient bénis de Dieu, mais qui devaient aussi passer par des épreuves. Ici, nous voyons dans toutes nos situations et nos états une réponse. Et ici, il est écrit au verset 7, « Je pense la nuit à mes instruments. » Il y a eu des temps où le psalmiste n'a pas pensé à ses instruments, mais il y a eu des temps où il a joué de ses instruments. Il les a utilisés, il a joué. Mais maintenant, il regarde à ce temps merveilleux où il jouait des instruments, où il chantait des cantiques. Mais en ce moment, il ne chantait pas, il ne jouait pas d'instruments. Il pensait seulement à ce temps béni dans lequel il avait chanté des cantiques et il avait joué ses instruments. Mais maintenant, il médite, il réfléchit et il arrive même à cette expression désespérée et dit, est-ce que l'action du Très-Haut a changé? C'était la question au verset 11. Non, l'action du Très-Haut n'a pas changé et ne changera pas. Mais ta situation et ma situation, elle peut changer. Et subitement, nous ne comprenons plus les chemins de Dieu. Subitement, nous ne comprenons plus les chemins de Dieu. C'est à cause de ce que Paul dit dans Romains, dans l'Épître aux Romains, comme tes voies, Seigneur, sont incompréhensibles et insondables, tes jugements. Dieu nous conduit, peut-être toi et moi, dans des chemins que nous n'emprunterions absolument plus. Il te conduit dans des chemins, il me conduit dans des chemins sur lesquels, dans des voies sur lesquelles nous remuons la tête, nous ne comprenons pas et nous nous demandons, mais comment est-ce que cela était possible? Mais à la fin de notre voyage, nous constaterons que Dieu, avec tout cela, avait lié un objectif, avait suivi un objectif. Et si c'était cet objectif-là, de nous délivrer de nous-mêmes et de nous rendre dépendants de la grâce, peut-être aussi pour servir d'autres et pour ensuite pouvoir servir d'autres et les comprendre dans leur situation et pas les regarder d'en haut, mais étant passé par soi-même par des difficultés, comme le psalmiste pouvait dire, de la profondeur, je crie à toi. Pour pouvoir être aussi capable de comprendre les autres dans leurs problèmes. J'aimerais lire un autre passage qui, il y a une semaine d'ici, est devenu pour moi une grande bénédiction et aussi par lequel le Seigneur a directement répondu. Ésaïe 51, verset 3. Car l'Éternel a de la consolation pour Sion, de la consolation pour tous ses lieux de ruines. Il fera de son désert un paradis et de sa terre aride un jardin de Dieu. Il y aura en elle des cris de joie et d'allégresse, des chants d'action de grâce et des instruments de musique. Si maintenant nous comparons ces versets et nous voulons les apporter en une seule unité entre le psaume et ce verset maintenant de Ésaïe 51, nous avons dans le psaume le rappel de ce que Dieu a fait dans les temps passés de manière merveilleuse et nous avons ici la promesse d'un prophète Ésaïe qu'il bénira nouvellement et que d'une terre aride il fera un jardin de Dieu et, oui, d'une terre aride, un jardin de Dieu et qu'il y aura de nouveau des cris de joie et d'allégresse et des chants d'action de grâce et des instruments de musique dans ce lieu. Et je me suis réjoui profondément de cette parole et j'ai pris cette parole comme une promesse qui nous est adressée, qui nous concerne directement et qui aussi s'applique à nous, est pour nous. Et nous avions fini avec la prière, avec la prédication. Et nous étions en prière et dans une autre langue, dans une langue étrangère, un cantique a été chanté et aussi l'interprétation a été donnée dans notre langue par l'Esprit de Dieu. Et l'interprétation, c'est ce que des yeux n'ont jamais vu, ce que des oreilles n'ont jamais entendu. Dieu l'accomplit en nous, l'opère en nous, parce que nous avons écouté sa parole. Ça, c'était pour moi et pour nous tous très puissant. Dans le deuxième couplet, il est dit, il est chanté, c'est pour cette raison que mon âme te loue, c'est pour cette raison que mon cœur et ma bouche t'exaltent, parce que nous voyons dans la foi ce que tu nous as fait connaître. Ça, c'était puissant. Nous l'avons pas seulement entendu avec nos oreilles, mais l'atmosphère remplie par le Saint-Esprit, nous l'avons vécu et nos cœurs ont été remplis de reconnaissance. Alors, si nous regardons à nous-mêmes, à notre état, nous pourrions dire au Seigneur, prends qui tu veux d'autre et fais ce que tu veux faire, mais je ne peux pas. Et puis après la prédication de cette parole de 51, et après la prédication, d'abord vient cette parole de Ésaïe 51, et puis ensuite, la parole de l'Esprit par un cantique en langue, ce que aucun œil n'a déjà vu, aucune oreille n'a déjà entendu. Dieu l'opère en nous parce que nous avons cru et écouté sa parole, et cru sa parole. Nous n'avons pas écouté des interprétations ou bien des opinions humaines. Nous avons écouté sa parole. Et sa parole, ses promesses sont oui et elles sont amen. Et nous l'avons pas écouté en vain, mais elle nous a été révélée par le Saint-Esprit. Vous pourriez dire, mais est-ce que chacun individuellement, ou bien est-ce que tous voient quelque chose de ça? C'est dans la foi que nous voyons déjà l'achèvement et le perfectionnement de l'Église épouse de Jésus-Christ. Dieu l'a promis et il le fera. Nous viendrons peut-être avec d'autres passages bibliques sur ce sujet. Nous reviendrons là-dessus, mais levons-nous maintenant pour prier ensemble et demander à Dieu qu'il puisse accorder sa bénédiction. Courbons les têtes et aussi les cœurs avec l'aide de Dieu. Père céleste, nous venons ensemble devant ta sainte face. Nous te demandons, prends cette réunion, ce service divin entre tes mains sous la conduite de ton Saint-Esprit. Que le ainsi dit le Seigneur de la parole ne soit pas seulement venu à nous, mais que nous puissions appartenir à ceux qui expérimentent le plein effet de la parole de Dieu et qui ont part à ça et atteignent le but. Parce que tu as pu opérer toutes ces choses en eux. Bien-aimé Seigneur, pardonne tout ce qui ne te plaît pas. Couvre-moi et couvre-nous avec ton saint sang. Sauveur, que l'ennemi puisse avoir perdu tout droit sur moi et sur tous ceux qui écoutent ta parole. Que ta victoire, ô Dieu, soit manifestée littéralement, visiblement, et fortifie aujourd'hui notre foi. ôte toutes les pensées qui nous éparpillent et qui nous distraient. Et prends-nous prisonniers sous l'obéissance de ta volonté. Nous ne sommes pas capables, Seigneur, pour cela et moi encore le moins de tous. Mais c'est pour cette raison que je te demande ton secours et ta grâce. Prends-nous entièrement prisonniers de toi. Révèle-toi d'une manière, manifeste-toi d'une manière que tous ressentent ta présence et la vivent et l'expérimentent. Fais-nous devenir un en toi, tous, en toi, notre Seigneur et notre Rédempteur. Ôte tout ce qui est adressé contre toi ou bien contre les uns, les autres, du milieu de nous, de nos cœurs, de nos pensées, tout ce qui est contre l'un et l'autre, ôte tout de nous pour que nous puissions être devenus des hommes nouveaux, purifiés et lavés dans ton sang, ô toi, agneau de Dieu, sanctifiés dans ta vérité, conduits par ton esprit. Et à toi, nous te remettons cette réunion. Sauve ceux qui sont perdus. Délivre tous ceux qui sont affligés et guéris tous ceux qui sont malades. Glorifie ton nom d'une telle manière comme tu le ferais si tu étais ici, visible pour tous. Sauveur, je te demande, fais-nous grâce et révèle-toi, manifeste-toi d'une manière puissante. À toi soit la reconnaissance et l'adoration dans le Saint-Nom de Jésus. Amen. Je suis de tout mon cœur reconnaissant au Seigneur de ce que nous pouvons croire comme le dit les Écritures, croire comme cela est écrit dans comme cela a été écrit dans la parole de Dieu, car ça c'est la foi que Dieu récompense avec une réponse. Il ne récompense pas une foi quelconque, mais la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. De cette foi-là, nous lisons dans Jude le verset 3. Et là, il s'agit de la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Et c'est pour cette foi-là que nous devons nous tenir, que nous devons combattre et nous devons rester attachés à cette foi. Dans cette foi, et ainsi s'accomplira que toutes choses sont possibles. Ainsi s'accomplira. Toutes choses sont possibles à celui qui croit. C'est comme ça que cela s'accomplira. Quand l'être humain a encore un point de départ pour l'espérance, pour pouvoir espérer, alors la foi ne s'installe pas. Seulement là où humainement parle aussi le point de départ d'espoir ou bien de l'espérance a également disparu. Quand le médecin remue la tête, secoue la tête et dit « Ici, nous sommes à bout de notre art, de nos possibilités. » Quand les hommes n'ont rien, il ne leur reste même pas une paille à laquelle ils peuvent s'accrocher, dans laquelle ils peuvent mettre leur espoir, parce que cette paille pourrait être encore un point de départ d'espoir qu'on transporterait dans le domaine de la foi. Or, la foi ne voit rien. La foi, vu très souvent, n'a plus d'espoir. Alors, ici, s'accomplit ce que nous trouvons dans Romains 4, quand il n'y a même pas une paille d'espoir ou d'espérance. Là où il n'y avait plus rien à espérer. Cette phrase-là, parfois, est vue très facilement. là où il n'y a plus rien à attendre, à espérer. C'est justement là que Abraham est resté attaché dans la foi, à la promesse. Et c'est par cela qu'il est devenu le père de beaucoup de peuples. Qu'est-ce que c'était? Pas une espérance, un espoir qui pourrait encore être dans le cœur d'un homme, comme quoi quelqu'un pourrait encore lui dire « Ne t'inquiète pas, la chose ira bien. » Non, mais même cet espoir lui est ôté pour que seulement et uniquement il entre dans le domaine de la foi, qui ne voit rien et que par cela, et cela obligatoirement transmis, ravi dans le domaine de la foi, parce que de toutes les manières, vu terrestrement, il n'y a plus d'espoir. Si Abraham, terrestrement, avait encore eu un espoir, alors il aurait pu aussi voir par cela l'accomplissement de la foi. Mais non, le miracle de la foi, ou bien alors de l'accomplissement de la promesse, n'aurait pas eu un tel poids. Et parfois, on pense que Dieu tarde, il devrait plus rapidement agir, et vous savez ce qui en sort comme résultat de cette façon de voir les choses, de parler. Alors ce sera un Ismaël qui sera produit de notre propre volonté et rien d'autre. Mais si nous pouvons nous attendre à Dieu, et cela dans la foi, jusqu'à même que si nous entrons dans une situation impossible, ou même où le dernier espoir a disparu, et que même la paille d'espoir que tu pourrais encore tenir dans ta main disparaît. N'est-ce pas? Avec cette espérance, avec l'espérance, avec la foi, avec l'espoir, on ne peut pas entrer dans le domaine de la foi tant qu'on a un espoir dans le domaine terrestre. Si tu as encore un espoir vu terrestrement, bon, je vais essayer cela, je vais voir comment ça pourra marcher. Tu peux encore essayer beaucoup de choses. Et alors, ça veut dire que tu n'es pas encore entré dans le domaine de la marche dans la foi. Le chemin de la foi est un chemin qui est au-dessus de tout espoir humain, terrestre. C'est un chemin de la foi. La parole elle-même l'exprime déjà. Et nous le voyons avec Marie. Elle disait, mais comment est-ce que cela pourrait être possible? Je ne connais aucun homme. Et l'ange lui a dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Ça, c'était la réponse. Pas un bon conseil, fais ceci, fais cela, essaye ceci, essaye cela. Non, mais une parole donnée de Dieu, une promesse faite par Dieu, implique l'action de Dieu selon la promesse à l'heure fixée. Et alors, il est écrit, « Oh, béni, toi qui as cru. » En ce qui concerne Marie, qu'est-ce que c'était? La foi voyait l'impossible déjà être devenu possible. Par la foi, l'impossible est devenu possible. Lors d'une guérison, la foi pour une guérison, alors que la toiture a été ouverte et que le paralysé a été placé, a été apporté devant le Seigneur et qu'il a reçu sa guérison et son salut. Et les gens ont dit, nous avons vu quelque chose d'impossible aujourd'hui. Qu'est-ce que c'était? À l'extérieur du domaine du possible. Car le domaine du possible est terrestre et le domaine de l'impossible est divin. Et là où nous sortons de notre domaine de ce que nous pouvons faire et là où nous devons sortir de ce domaine, là où nous pouvons faire quelque chose, où nous pouvons espérer quelque chose. C'est quand nous sortons de ce domaine terrestre-là que la foi s'installe et par la foi, l'action de Dieu et par l'action de Dieu, l'accomplissement de ses promesses. Donc, dans ces derniers temps, nous devons revenir et être nous-mêmes rétablis, restaurés dans cette foi qui avait été transmise une fois pour toutes à l'Église primitive et à tous les saints, dans la même foi dans laquelle l'Église primitive se tenait. Et le frère Branham a tenu cette prédication à Zurich et aussi à Karlsruhe et aussi aux États-Unis dans plusieurs endroits. Cette prédication du prophète Joël, la parole où il est dit « Je vais restaurer, dit l'Éternel ». C'est écrit dans Joël, vous connaissez tous cette parole, c'est Joël chapitre 2, la dernière partie du chapitre. Nous tous, nous avons, n'est-ce pas depuis des années, écoutez le message. Maintenant, nous devons reconnaître l'état impossible, la situation impossible de notre, l'état impossible de notre action, de notre état, et reconnaître notre impuissance de conduire les gens au Seigneur, notre impuissance de guérir les gens, notre impuissance de que par nous quelqu'un soit sauvé, que nous puissions reconnaître notre impossibilité et notre impuissance à 100%, que nous puissions reconnaître cela, vraiment faire une déclaration de faillite et dire Seigneur, les espoirs que nous avions, et maintenant mettons notre main sur notre cœur et pensons à notre situation chacun pour soi. Et nous, qui ne sommes pas seulement là depuis 2-3 ans, mais depuis 20, 30 ou bien 40 ans, et suivons le Seigneur depuis plus que ça peut-être même, mettons nos mains sur notre cœur. Est-ce que tout de nouveau parmi le peuple de Dieu, il n'y a-t-il pas eu de nouvelles espérances ou bien un nouveau espoir qui ont été éveillés à nous? Avons-nous pas toujours voulu conserver quelque chose en vie par des espoirs, par des espérances? Quoi, de quel caractère cela a été, mais avec cela, on ne peut pas conserver une église en vie. La vie vient de la parole et la foi vient de la prédication de la parole de Dieu. Et c'est en cela qu'est ancrée notre ancre a été affermie. Et en ce moment, il y a une chose qui parcourt les pays les Russes vont envahir une certaine région bientôt. Et ils font peur aux gens et il y en a même qui disent, c'était une prophétie du Seigneur. Je ne veux pas et je ne peux pas juger cela. Dieu ne m'a pas établi pour cela. Mais quand jusqu'à dans la maison, on entend cela venant d'un autre pays et cela fait son tour dans le domaine des gens du plein évangile. Alors nous nous posons la question, qu'est-ce que cela devrait atteindre? Est-ce que par cela on devrait mettre les gens dans une panique? La volonté de Dieu aura lieu de toutes les manières. Tout ce qui est écrit dans le plan de Dieu, nous n'allons pas pouvoir le retenir. Et nous faisons pas peur aux gens devant un ennemi terrestre. Le russe n'est pas notre ennemi. La Russie n'est pas notre ennemi. J'ai beaucoup d'amis en Russie. Ce sont nos amis. C'est la politique qui font qu'on regarde des gens comme nos ennemis. Et c'est Satan qui gouverne ce monde, qui est le maître de ce monde, qui apporte cette confusion. Nous, en tant que peuple de Dieu, nous n'avons pas besoin de piqûres pour un moment qui devrait nous tenir sur nos pieds, nous tenir sur nos pieds. Nous avons besoin d'une réponse divine. Nous devons, en esprit, passer, sortir, être ôté de ce domaine naturel, d'un espoir naturel, et être transporté dans le domaine de la foi, dans le domaine des choses impossibles, mais rendu possible dans le domaine de la foi, dans lequel les promesses de Dieu s'accomplissent. Si pour ton salut, tu as seulement l'espoir d'être sauvé, alors avec cet espoir, éventuellement, la parole serait liée, cette parole-là serait liée, peut-être, peut-être que tu seras sauvé. Et tu prieras et tu diras, peut-être que le Seigneur me sauvera. Mais si, par la prédication de la parole, Jésus-Christ, comme le crucifié, t'est présenté devant les yeux, devant, sous les yeux, et que le Saint-Esprit te parle, alors ce n'est plus une chose de ta compréhension humaine, ta réflexion, mais c'est quelque chose, c'est une décision opérée par le Saint-Esprit dans ton cœur. Alors, tu ne peux rien faire d'autre que de croire et de dire, Seigneur, je t'accepte, je te reçois comme mon sauveur personnel, comme celui qui m'a sauvé sur la croix, car je crois en toi, le crucifié, je crois en toi comme celui qui là-bas, sur la colline de Golgotha, a porté mes fautes et mes péchés, a payé le prix, la rançon et a expié mes fautes, mes péchés. Donc si quelqu'un veut recevoir la foi pour guérir de la part de Dieu, alors ton espérance, l'espoir que tu as de guérir ne suffit pas. Ça ne suffit pas non plus de te dire, bon, peut-être que ça, j'irai mieux. Avec nos paroles, avec le peut-être, est lié un espoir, tu vois. Mais avec la foi, quand la foi s'installe, la certitude en Dieu et dans sa parole sont ancrées et scellées dans ton cœur par le Saint-Esprit. Et alors, de tes propres yeux, et ça, je voudrais aujourd'hui le dire et le souligner, Abraham n'a pas dit, Abraham n'a pas dit, bon, je vais plus regarder mon corps qui est pourri et qui est devenu presque, qui a 100 ans. Non. Abraham a regardé à l'état de son corps et de celui du corps de sa femme. C'est pas qu'il a ignoré leur situation, mais il n'est pas resté à cette situation humaine. C'est vrai qu'il a considéré cette situation humaine. Ensuite, dans la foi, il a regardé à Dieu. Il s'est pas laissé égarer par la situation qu'il regardait et par sa propre situation et par l'incrédulité que cela pourrait lui produire. Non, il a enregistré son état corporel et celui de sa femme. Il a dit oui, vraiment, nous sommes. Mais c'était pas la fin de ta constatation. C'était seulement la fin pour ensuite un nouveau commencement glorieux. La fin de soi-même, la fin de sa propre force, de sa propre capacité corporelle, de chaque espoir et espérance qu'il aurait pu avoir durant toutes ces années. Et la foi s'est installée là où vit terrestrement. Et c'est vrai qu'il a constaté un état terrestre qui n'avait plus sous son contrôle, qui ne pouvait plus avoir sous son contrôle. Mais il regardait à Dieu. Bien aimés frères et sœurs et bien aimés amis, la prédication de la parole de Dieu est déjà a déjà cet objectif. Elle est là pour que en nous une espérance vivante soit éveillée. Pas une espérance de sorte humaine, mais une espérance divine selon la parole de l'Écriture. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mais je voudrais entre l'espérance terrestre et la foi opérée par l'esprit, je voudrais aujourd'hui distinguer les deux choses. Il ne faut pas qu'on les mélange. L'espérance, si elle vient de Dieu, l'espoir, s'il vient de Dieu, alors il conduit à la foi vivante. Mais si c'est un espoir, une espérance que l'homme lui-même peut avoir, parce qu'il voit encore que ça peut aller mieux. Et là, la foi ne s'installera pas. Mais là où il n'y a plus d'issue terrestrement, et là où Dieu se révèle. Et justement, cela dépend que nous ayons complètement fini avec nous-mêmes. S'il y a encore un seul pourcentage d'espoir. Oh, ça pourrait encore aller mieux. Je pourrais encore être. Ce 1%-là est un obstacle à la foi. C'est seulement là où il n'y a plus d'espoir, où tu ne vois aucun issue, où tu ne peux plus t'aider toi-même et personne ne peut t'aider. C'est à ce moment-là que tu cries à Dieu et il a promis, invoque-moi du sein de la tristesse et je t'exaucerai. Et si nous regardons et lisons le prophète Jonas au chapitre 2, là il y a des choses que nous constatons. Dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et au pied des montagnes, il y est allé. Et ensuite, cette parole merveilleuse est exprimée. Regardez les pensées et les paroles. Il a regardé selon la promesse au temple de l'Éternel et il a exprimé sa prière. Un homme qui est jeté dans la mer et qui coule, avec lui, extérieurement, tout est fini. Avec lui, terrestrement, tout est fini. N'est-ce pas, c'est la fin. Mais, justement, ce Jonas-là, il avait une foi extraordinaire. Il savait que si Dieu m'a mandaté à apporter à la ville Ninive la parole et à annoncer le jugement, même si je prends une décision personnelle et je veux aller dans un propre chemin, Dieu me conduira et me saisira et m'amènera là où il veut que j'aille. Oui, vous direz peut-être tous, le pauvre Jonas. Moi, je vous dis aujourd'hui, c'est le pauvre frère Franck, pas le pauvre Jonas. Jonas, il a déjà sa leçon derrière lui. Dieu l'a appelé à sortir. Moi, je suis encore peut-être au milieu, dans l'abîme. Et cette pensée m'est venue aujourd'hui alors que, n'est-ce pas, je devais penser à beaucoup d'hommes de Dieu. Les uns, on leur a coupé la chevelure alors qu'il était un consacré de l'Éternel. Et ça ne suffisait pas encore. On lui a ensuite même percé les yeux. Et alors, quelque chose a parlé dans mon cœur. Même si ta chevelure a été coupée, mais tes yeux ne seront jamais percés. Le regard prophétique, la vue prophétique que Dieu a donnée, la révélation de sa sainte parole et la vue divine, la vue claire sur les choses spirituelles dans ce temps. Cette vue nous sera conservée par la grâce de Dieu et l'Église sera conduite à sa perfection. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu dans votre cœur la voix de Dieu, la voix même du Seigneur dans le cœur. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui n'ont pas cette intime relation avec Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu. Et ici, notre frère Barrelier est assis de Lausanne. Et quand je pense aux réunions qu'avec lui, j'ai tenues il y a des années passées à Lausanne, alors cette puissance de Dieu me remplit encore aujourd'hui. Mais après la réunion, c'était des Arméniens qui avaient émigré là-bas et la question m'a été posée par eux. Frère Franck, qu'est-ce qu'il y en a de cet honneur? Et c'était la première fois dans ma vie que je ne pouvais pas directement comme ça, ou bien alors que je ne pouvais pas comme ça répondre à une question sans me donner du temps. Je lui ai dit, s'il te plaît, frère, je ne le sais pas. Je ne sais pas ce qu'il y en a de cet honneur. Et ensuite, je suis allé dans la chambre et il y avait une cheminée dans la pièce. Donc, en sorte de four, mais c'était froid, c'était éteint. Et il faisait très froid dans la chambre. Et donc, j'ai été réveillé, Dieu est témoin, par une voix audible qui a retenti au-dessus de moi. Lève-toi et lis 2 Timothée 4. Et j'ai un peu hésiter parce qu'il faisait très froid dans la chambre. Et pour la deuxième fois, encore plus fort. Et en quelques secondes, j'étais déjà sorti du lit. Et j'avais ma Bible et j'ai lu 2 Corinthiens 4. 2 Timothée, pardon, chapitre 4. Et pendant que je lisais, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui jugera les vivants et les morts. Prêche sa parole, insiste en toute occasion, favorable ou non. Vous connaissez tous ce texte. Et je continue à lire. Et subitement, il est dit. Et subitement, il m'a été dit de relire à partir du verset 1. Et je suis revenu au verset 1 et j'ai lu encore ici au verset 2. Prêche la parole. Et à ce moment, à partir du verset 2, quand j'ai relu pour la deuxième fois, j'ai fermé ma Bible et je l'ai serré sur ma poitrine. Et j'ai dit, Seigneur, j'ai levé mes mains. J'ai dit, Seigneur, je te remercie pour la réponse sur les sept tonnerres. Vous me direz, mais frère Franck, celui qui lit 2 Timothée 4, il ne peut pas avoir reçu une réponse en ce qui concerne les sept tonnerres. Doucement. Si rapidement, ça ne va pas ainsi. Subitement, quelque chose comme l'esprit de la prophétie est venu sur moi. Et je l'ai prononcé de mes lèvres. J'ai dit seulement ce qui a été écrit dans la Bible comme parole de Dieu pourra être prêché. Tout ce qui n'a pas été écrit comme parole de Dieu dans la Bible ne sera pas prêché. Et si je pense à ce cantique en langue et à son interprétation, alors ici, il nous a même encore dit une fois ce que aucun œil n'a vu, ce que jamais aucune oreille n'a entendu. Dieu l'accomplit à nous parce que nous avons cru à quoi? À sa parole. Pas Dieu nous laisse prêcher. Non. Pour prêcher, il faut avoir les Écritures. Prêche la parole, que ce soit au temps favorable ou non. Dieu viendra à ceux qui ont reçu ce message comme venant de lui. Ils sont conscients que ce message vient de lui. Qui n'ont pas seulement dit oui à ce message dans leur pensée humaine, mais qui l'ont reçu dans leur cœur. Et c'est parmi ces gens-là que Dieu révélera toute la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et ensuite, les fils et les filles de Dieu seront manifestés. Alors sera aussi manifesté ce qui est encore en discussion en ce moment. Mais une discussion n'est pas encore une réponse divine. Les promesses de Dieu impliquent à eux l'action de Dieu. Et qu'est-ce que nous avons lu? Et dans les Proverbes, il nous a dit que toute chose a son temps. Vraiment, toute chose a son temps. Pour toute chose, il y a un temps. Ou bien dans Prédicateur, dans l'Ecclésiaste. Et nous ne pouvons pas aller avant Dieu. Il y en a qui voudraient le faire, précéder Dieu. Non. Je crois que c'est dans Prédicateur, dans l'Ecclésiaste chapitre 9. Ici, il est écrit au verset... Ecclésiaste chapitre 9, verset 1. Oui, c'est sur tout cela que j'ai porté mon attention et que j'ai cherché à me rendre compte de tout cela. À savoir que les justes et les sages sont dans toutes leurs actions dans la main de Dieu. L'homme ne sait pas s'il rencontrera l'amour ou la haine. Tout est voilé devant lui. Le même sort s'applique à tous sans distinction. Le même sort est réservé à tous, au juste comme à l'impie, au pur comme à l'impire, comme à l'impur, à celui qui sacrifie comme à celui qui ne sacrifie pas. Il en est du bon comme du pécheur et de celui qui jure comme de celui qui craint de jurer. Une observation pure, et parfois, on remarque que le croyant tombe malade et l'incroyant aussi. Le croyant a un accident, l'incroyant a aussi un accident. Les mêmes choses qui se passent, qui arrivent dans la vie, arrivent aux uns comme aux autres, croyants ou pas. Et ici, la question est posée, pourquoi est-ce que Dieu permet les choses ainsi? Vous savez, nous n'avons même pas besoin de poser des questions. Mais nous voulons avoir la réponse de Dieu. Et la réponse, elle est directement ici, au même chapitre, au verset 11. Au verset 11 est la réponse. De nouveau, j'ai vu sous le soleil que ce n'est pas au plus rapide que revient la victoire dans la course, ni au plus brave la victoire dans la guerre, ni aux sages le pain, ni aux intelligents la richesse, ni même aux savants la faveur, mais ils dépendent tous du temps et des circonstances. S'il vous plaît, recevez cette parole dans votre cœur. Ici, une course nous est montrée. Aussi, Paul en parle dans l'Épître aux Corinthiens et il dit, celui qui participe à la course, qui puisse le faire avec toute force, qui puisse laisser tout ce qui pourrait l'entraver, l'empêcher de courir et courir selon les règles. Mais vous savez exactement, dans le terrestre, c'est comme ça et peut-être aussi dans le spirituel. À l'un peut courir plus vite et l'autre est plus rapide, l'autre n'est pas si rapide. Où serait là la justice de Dieu? Si au plus rapide, il permet qu'il atteigne le but et l'autre devrait seulement regarder ce qui est devenu. Non. Et alors, suit la réponse divine. De nouveau, tous sont dépendants du temps et des circonstances. Tous. Et le temps de Dieu pour moi et pour toi a sonné. Et la circonstance divine est que pour nous, il a parlé dans ce temps. Et il ne s'agit plus ici de l'un qui est rapide, qui veut être plus rapide et atteindre plus rapidement le but, ou bien l'autre qu'il voit loin, loin, loin derrière lui. Et ce qui est étrange, c'est que je n'ai jamais vu de croyant depuis les 30 ans. Ça fait 30 ans que je suis croyant. Je n'ai pas rencontré de croyant qui aurait déjà vu quelqu'un devant lui. Chacun a vu les autres toujours loin derrière lui sur le chemin du Seigneur. Hein? Cela doit changer. Cela a été dit ici. Il ne s'agit pas de la rapidité de quelqu'un. Et Paul l'a formulé. Il ne s'agit pas de celui qui veut ou bien celui qui court, mais de la miséricorde de Dieu pour que l'Écriture ait raison. Celui à qui je fais grâce, je lui fais grâce. Celui à qui je fais miséricorde, je lui fais miséricorde. Tout dépend de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Donc, une course, c'est vrai. S'efforcer, c'est vrai. Avoir du zèle à atteindre le but, c'est correct. Mais jamais avec cette pensée, « Ah, les frères et sœurs, ils sont tous derrière moi. Moi, je suis celui-là qui est devant tout le monde. » J'ose dire que si toi et moi, nous avons une telle disposition, une telle pensée dans nos cœurs, ça veut dire que nous ne sommes même pas en train de courir. Avez-vous compris? Nous devons arriver à ce point. Nous ne sommes même pas dans la course. Nous devons arriver à ce point où toute propre gloire, honneur et tout ce qui pourrait être à notre gloire soit balayé et que nous recevions aucun honneur, aucune gloire. Où il est écrit que celui qui veut se glorifier, qu'il se glorifie dans le Seigneur. Et de ce que le Seigneur lui fait grâce. Donc, regardez ce qui est écrit ici. Pas au savant, pas à celui qui est rapide, pas à celui qui est brave. C'est pas à lui que la victoire sera accordée dans la guerre. Pas aux sages, le pain, ni aux intelligents, la richesse. Et ni au plus rapide, c'est pas au plus rapide qui revient la victoire. Mais ils dépendent tous du temps et des circonstances. Ecclésiaste 9, verset 11. Qui dispose des circonstances? Qui a fixé le temps? Est-ce que c'est toi qui l'as fait? Est-ce que c'est moi qui l'as fait? Nous tous, nous sommes dépendants du temps et des circonstances. Ça, peut-être qu'en ce moment, nous ne le comprenons pas. Hein. Nous ne comprenons pas ce que ça veut dire. Mais c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas l'un qui peut dire, oh, moi, j'ai été brave, j'ai vaincu, j'ai reçu la victoire. Mais de qui vient la victoire? La victoire ne vient pas de toi et de moi, de notre bravoure. La victoire nous est accordée ensemble à tous par la grâce de Dieu. Pardon, la rédemption et le salut nous est accordé à tous. sans nos mérites. C'est ainsi aussi pour tout le reste. Ensuite, il est écrit ici, verset 12, « L'homme ne connaît même pas le temps qui lui est fixé, non comme les poissons pris dans le filet du malheur et comme les oiseaux pris au piège. Ainsi, les fils de l'homme sont enveloppés au temps du malheur quand ils font soudain sur eux. » Donc, sans le vouloir, sans le planifier, l'homme, subitement, peut passer par des circonstances et peut être enveloppé dans le malheur à tel point qu'il est un prisonnier de sa propre, il est devenu un prisonnier de sa propre situation et circonstances. Et s'il comprend qu'il est prisonnier de sa propre circonstance, il est devenu prisonnier de sa propre circonstance et qu'il ne peut pas se délivrer lui-même et s'aider lui-même dans sa situation, alors il ne lui reste plus rien d'autre à faire que de regarder au Dieu qui est au ciel, mais qui aussi se manifeste sur terre. Et il ne lui reste que le choix d'invoquer, de crier à Dieu pour que Dieu lui fasse grâce et l'aide. Et nous lisons parfois de telles écritures, des passages, et nous passons, et nous demandons pourquoi. Nous ne comprenons même pas ce que cela veut dire, ce que nous lisons. Et un homme jusqu'alors qui m'était inconnu me disait, je ne sais pas s'il a dit frère Franck ou bien monsieur Franck, mais il disait, ne demandez jamais après le pourquoi. Ne dites jamais pourquoi, mais dites dans votre cœur. Dites-vous simplement dans votre cœur à quoi est-ce que cela devrait me servir au Seigneur. Pas cette recherche scientifique sans fin qui va au-delà de toute mesure sans avoir de réponse. Mais à quoi cela devrait me servir, Seigneur? Et on trouve tout un nombre de choses que l'on remarque déjà et on dit, oui Seigneur, tu as dû mettre ta main ici, sur ce point de ma vie, ici, cette chose, ici j'ai eu ma propre volonté, ici j'ai marché dans mes propres voies, ce n'était pas droit devant toi, exact, cela ne t'a pas plu, ce que j'ai fait ici et là. Et c'est ainsi que dans notre malheur, on crie au Seigneur. Et alors les choses vont pour nous comme c'est allé pour Jonas. J'ai crié au Seigneur et il m'a exaucé et il m'a sauvé de toutes mes frayeurs. Vous savez que aussi les enfants de Dieu peuvent arriver dans des situations où ils ont des frayeurs, où ils sont couverts par les vagues, par les circonstances desquelles nous avons lu ici, qui sont tous dépendants du temps et des circonstances. Et alors nous voyons l'intervention glorieuse et merveilleuse de notre Dieu. Alors ce n'est plus l'homme qui s'est aidé, alors c'est le Seigneur qui l'a aidé. Et alors s'accomplit tel que ce qui est écrit peut-être dans 2 Corinthiens 5 ou 4, que au jour du salut, 2 Corinthiens 6, il nous a aidés, ou bien alors il t'a aidé. Et ceci, c'est le jour du salut dans lequel nous sommes, dans lequel le Seigneur nous aide et nous exhorte et nous secoue. Et j'ose dire, si tu es un prisonnier des circonstances, tu es devenu un prisonnier des circonstances, un prisonnier, et que toi-même tu peux pas t'aider, te libérer de la situation. Ensemble, nous voulons, dans la confiance et dans notre Dieu, invoquer et revendiquer son secours. Parce que c'est promis dans 2 Corinthiens 6. Qu'est-ce que nous aimerions mieux que cela? Tant que nous pouvons encore nous aider, alors ça veut dire que nous n'avons pas besoin du Seigneur. Mais au moment où nous comprenons que nous ne pouvons plus nous aider, il n'y a aucune issue, nous voyons aucune issue à notre situation, alors nous pouvons, que nous voulions ou pas, mais de notre cœur, crier à lui, et alors il nous exauce, il nous répond. Quelle est ta situation? Quel est ton état? Quelle est ta situation? Dans quel état et dans quel état est ma vie et ta vie? Comment les choses sont dans la vie de l'Église? Est-ce que nous ne sommes pas tous arrivés à ce temps bien précis où nous sommes dépendants de la conduite et l'intervention de notre Dieu? Je l'ai dit plusieurs fois. Si je pouvais opérer moi-même l'achèvement et la perfection de l'Église, alors je le ferai. Mais je ne peux pas le faire et aucun homme peut le faire. Il n'y en a qu'un seul qui veut nous laisser savoir que chaque association pieuse et chaque religion, chaque essai religieux vient de l'homme. Et comme Frère Branham le formule si bien quand il parle du jour de la Pentecôte, ce n'est pas un sacrificateur qui est venu et qui s'est tenu sur le podium et a tenu une prédication sur l'effusion du Saint-Esprit. Mais un bruit tumultueux est venu du ciel et le feu de Dieu s'est effusé et les croyants ont été remplis de cet esprit et ont commencé à parler en autre langue comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pierre n'a jamais dit, vous voyez, c'est parce que j'étais ici que cela s'est passé. C'est parce que j'étais ici que cela s'est passé si bien et que cela s'est bien passé. Pas parce qu'un Pierre ou bien alors Paul, mais parce que le Seigneur, au temps fixé par lui, a accompli ses promesses et sa parole. Et c'est en lui et par lui que toutes ces choses sont arrivées. Et jusqu'à la fin, elles dépendront de l'intervention de Dieu. Chaque frère qui pense pouvoir, n'est-ce pas, prendre les choses entre les mains dans le royaume de Dieu, s'il vous plaît, ne m'en voulez pas. Mais Dieu va pas mettre son œuvre dans la main d'un homme. Jamais. Son œuvre doit lui être remis entre ses mains et nous sommes aussi l'œuvre de ses mains. Nous sommes dépendants de lui. Et si il lui est permis de faire de nous des vases qu'il peut utiliser, s'il lui est permis de nous former, alors ce n'est pas le vase ensuite qui reçoit l'honneur, mais celui qu'il a créé, qu'il a formé et qu'il utilise pour son honneur. Donc ce n'est jamais toi, jamais moi, ce n'est jamais nous, mais c'est le Seigneur qui a commencé son Église et il achèvera pour le jour glorieux de son retour. Et ce retour est précédé par la révélation prophétique de la parole de Dieu. Tous les versets bibliques qui se réfèrent à notre temps, et je suis reconnaissant, et je suis sincère, et honnête, il y a beaucoup de spécialistes. Les uns ont ici, les autres ont là leur spécialité. Comme on dit, loisir d'équitation. Mais il y a un message prophétique qui a été confié à un homme envoyé de Dieu avec un mandat direct divin, comme Jean-Baptiste autrefois, lors de la première venue de Christ, aussi l'avait reçu confié. Et nous n'avons pas honte de dire que le Seigneur a, d'une manière merveilleuse, a utilisé notre frère, bien-aimé frère Branham, qui depuis longtemps est auprès du Seigneur. Il a été utilisé d'une manière extraordinaire par le Seigneur. Et je vous demande, avant de l'oublier, lisez les brochures, les prédications qui sont éditées après l'ouverture des sceaux. Lisez-les et lisez-les encore et approfondissez-vous dans ces prédications, car c'est d'elles que la foi viendra, qui nous fera passer au dernier stade dans lequel nous devons arriver pour prendre part à l'enlèvement. D'une manière ou d'une autre, l'orientation, la direction doit être donnée et elle ne pouvait pas être donnée par un homme. L'orientation, la direction devait être donnée par Dieu lui-même. Et vous savez que Dieu, depuis le commencement, a utilisé des hommes qu'il l'a envoyés, qu'il a mandatés, par lesquels il a personnellement pu lui-même parler. Et souvent, je laisse formuler. Beaucoup ont parlé de Dieu, mais seulement très peu étaient des hommes par qui Dieu lui-même a pu parler. La plupart des prédicateurs parlent de Dieu, parlent de Jésus-Christ, parlent de la parole. Mais il y en a très peu par lesquels Dieu lui-même peut parler, par lesquels il peut faire apporter sa parole et retentir sa parole. Et nous croyons que frère Branham était vraiment un homme, un prophète envoyé de Dieu. Vraiment un prophète envoyé de Dieu. Et ça pourrait être pour les oreilles non initiées, ça pourrait se faire entendre un peu étrange. Ça pourrait même avoir l'odeur d'une secte. Cela ne me dérange pas. Et j'espère que aussi tous les élus ne sont pas dérangés par ces gens. Dieu a, et par cela, la chose est réglée pour nous. Dieu a appelé. Dieu a envoyé. Dieu a parlé. Et nous n'avons plus affaire à un homme, mais à notre Dieu lui-même qui, dans ce temps, nous a laissé apporter sa parole. Et complètement à la fin, nous verrons que nous n'avions pas été des idiots, des insensés, et que nous n'étions pas des folles, mais que nous avons appartenu à ceux desquels Daniel dit que dans les derniers temps, beaucoup liront et comprendront et seront purifiés, blanchis, éprouvés et préparés. Nous sommes prêts comme petits troupeaux sous les mépris les plus graves à malgré tout suivre le Seigneur jusqu'à que nous passions de la foi à la vue et à la fin de ce chemin. Quand les portes de Père s'ouvriront, alors nous remercierons Dieu de ce que de la masse il nous a fait sortir, il nous a arraché et nous a inséré dans le corps du Seigneur. Même si ce corps n'est pas encore entièrement en fonction, les membres sont déjà là du corps. Nous avons été appelés par le Seigneur et élus par lui pour voir la fin de toutes choses. Si ce que le Seigneur le dernier week-end nous accordait, si ces choses sont devenues si grandes comme pour moi et ont inondé vos cœurs comme moi, je crois que tous nous pouvons avoir été fortifiés dans la foi. Ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu, Dieu l'opère en nous, l'accomplit en nous, parce que nous avons écouté sa parole et nous l'avons cru. Alléluia! Dans mon cœur, il y a un amen à cette chose. Je ne peux rien faire d'autre. Ici, ce n'est pas seulement parler de ce que nos oreilles verront dans la gloire. Nous avons pour cela, déjà dans la parole de Dieu, la promesse. Nous n'avons pas besoin d'une prophétie ou bien d'une révélation prophétique ou bien d'une interprétation d'un chant en autre langue, en langue étrangère. Cela est déjà écrit dans la Bible, dans 1 Corinthiens 2. Et ce qui est écrit dans la Bible n'a pas encore besoin d'être chanté en autre langue. Cela peut être lu, cela peut être prêché et nous l'acceptons. Mais ce qui a été chanté ici dans une autre langue et interprété est une révélation du Seigneur. Cela aura lieu à nous, déjà sur cette terre, parce que nous avons écouté sa parole. L'as-tu écouté? As-tu reçu? As-tu écouté la parole? Et dans la foi, l'as-tu vraiment reçu? Est-ce que elle est devenue en toi agissante, efficace, vivante, plus tranchante, comme il est écrit dans Hébreux 4, verset 12, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante, jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Le temps arrive où la parole que nous avons écoutée et que nous avons reçue dans notre cœur comme une semence incorruptible, qui a été plantée comme une semence incorruptible, elle se déploiera et nous serons comme ceux qui rêvent mais qui sont éveillés et voient que Dieu fait de grandes choses parmi les siens. Et qui sont les siens? Il a dit, mes brebis entendent ma voix. Et quelle est sa voix? Sa voix, c'est sa parole. Sa parole révélée, c'est ça sa voix. Sa parole révélée pour ce temps. Et avec cela, j'arrive à la fin. C'est ainsi que si nous voulions comprendre les choses avec notre intelligence humaine, nous dirions dans toutes les églises et dans toutes les églises libres, dans toutes les églises et les communautés, les confessions, la Bible est ouverte, des passages sont lus, mais c'est pas ce que cela veut dire. d'écouter la parole de Dieu que quelqu'un ouvre la Bible et pense qu'il a accompli son devoir religieux. Il s'agit de plus. Il s'agit de ce que cette parole qui a été écrite et qui a été révélée par le Saint-Esprit, il faut ensuite que cette parole devienne vivante en toi, efficace, pas seulement qu'elle soit écrite dans la Bible, mais qu'elle soit écrite sur les tables de ton cœur et de mon cœur, et qu'elle devienne une réalité en toi et en moi, efficace en toi et en moi, vivante et tranchante en toi et en moi. C'est-à-dire passer du domaine de l'espérance à la foi. Et ça, c'est le saut où, vite restement, nous sommes arrivés au bout où nous disons, Seigneur, jusqu'à maintenant, j'ai réussi, mais maintenant, je ne vois aucune issue, je ne peux plus rien faire. Je te remets toutes choses entre les mains. Je ne fais plus rien. Et c'est ce que Dieu attend, pour prendre les choses entre les mains et pour ensuite révéler ce qu'il a promis dans sa parole, dans ta vie et dans ma vie. Pas ce que je veux, pas celui qui court, celui qui veut. Mais nous sommes tous, n'est-ce pas, dépendants des temps et des circonstances. Et beaucoup de choses ont été dépendantes des temps et des circonstances. Mais que le temps soit arrivé où la prison spirituelle qui nous lie et qui nous rend, qui nous retient paralysés, qu'avec l'aide de Dieu, nous en soyons délivrés et que Dieu puisse briser cette situation car il délivre entièrement. Il nous fait sortir et nous fait voir le chemin et ensuite y marcher, le chemin qu'il a préparé pour toi et pour moi, déterminé pour toi et pour moi. Là où il y a un désert, ça deviendra un paradis. Là où il y a une terre aride, là, ce sera le jardin de Dieu. Et vous savez, laissez-moi encore dire cela. Alors que Dieu avait créé toutes choses, il est écrit ensuite plus tard, au chapitre 2, et il planta un jardin en Éden. Ce jardin n'était pas tout de suite là, dans sa forme, dans sa création originelle. Dieu l'a planté, tout comme pour dire, tout ce qui était éparpillé dans la création, il a concentré dans ce jardin-là, en un seul point, dans un petit lieu, il a rassemblé. Il a planté ce qui existait partout, il a planté ça dans le jardin. Et Dieu a fait de ce lieu un paradis. Et il a préparé aussi un paradis pour toi et pour moi. En réalité, je te dis, aujourd'hui encore, le Seigneur a dit, tu seras avec moi au paradis. C'est ce que le Seigneur a dit. Et tout est déjà préparé pour toi et pour moi. Accepte-le comme don de grâce de ton Dieu. Et crois aujourd'hui en Jésus-Christ, ton sauveur personnel, ton rédempteur personnel. Et cela de tout ton cœur et de toute ton âme. Qu'il a souffert pour toi. Que pour toi, il a expié. Et pour toi, il est allé sur la croix et a pris ainsi ta place pour te sauver et me sauver. Alors nous pouvons chanter, je suis sauvé, je suis racheté, sauvé par le sang de l'agneau. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant se repose sur nous tous, dans le saint nom de Jésus. Amen. Levons-nous pour prier. Père Céleste, ensemble nous venons, tels que nous sommes, devant ta sainte face, sous le couvercle du sang de l'agneau. Et nous croyons que en Christ, tu nous as pardonné et que tu nous as réconciliés avec toi-même. Nous prions pour tous ceux qui ont levé leurs mains, qui avaient levé leurs mains. Seigneur, je te demande que ta parole dans chaque cœur puisse pénétrer sa cœur et que ton esprit puisse la vivifier. Oh Seigneur, attire tous à toi. Pardonne toutes les fautes et les péchés que tu puisses accepter et recevoir. Que tu puisses faire d'enfants d'hommes, des enfants de Dieu. Seigneur, de créatures passagères, des créatures éternelles de Dieu, des fils et des filles de Dieu, Seigneur, je te remercie, Sauveur, de ce que tu nous as accordé, la vie éternelle. Nous l'avons reçue. Seigneur, je te demande, couronne tous de grâce et de miséricorde, qu'ils puissent maintenant ressentir que tu es proche d'eux et que ce n'est pas seulement des paroles mais que nous entendons, mais que par ton esprit, tu parles avec eux et que maintenant, tu les as attirés à toi. Nous te les remettons entre tes mains. Que tu puisses les agréer au Seigneur tels qu'ils sont. Et change-nous tous dans nos cœurs. Change-nous dans notre cœur. Et ensuite, quand le temps et l'heure viendra, alors nos corps seront aussi changés. Je te loue et je t'exalte. Je loue la puissance de ton sang qui a coulé à Golgotha. Je te remercie pour l'évangile valable éternellement. Je te remercie pour Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est une puissance de Dieu. Et je te remercie pour le Saint-Esprit. Nous te remercions pour le Saint-Esprit qui convainc les hommes de péché et qui les attire à toi. Sauveur, bénis toi-même de la plénitude de ta grâce.